Moi, la parole de Dieu, on va dans l'Ancien Testament, le premier livre de Samuel, on va lire au chapitre 1er, au verset 1er. Une histoire bien connue de la Bible, mais je pense que la Bible nous parle constamment. Amen. Je me souviens de ce collègue serviteur de Dieu qui aujourd'hui est auprès du Seigneur. Donc, il avait déjà quelques années, excusez-moi, de route, hein, puisqu'il était à la retraite. Et il me disait, Bernard, je viens de lire ce texte. Alors, je ne me rappelle plus lequel texte. Il me dit, il m'a encore parlé ce matin, pourtant ça fait des centaines de fois que je le lis. Mais ce matin, je l'ai vu encore différemment. Parole de Dieu est vivante. Amen. Et quand nous sommes dans le besoin, eh bien Dieu sait. Parce qu'il contrôle tout. Il sait comment nous parler. Gloire à Dieu. Alors vous y êtes, 1 Samuel, chapitre 1er, verset 1er. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élu, fils de Tohu, fils de Suph, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne, l'autre Péninna. Péninna avait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se présenter devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Péninna, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double. Retenez bien, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Péninna la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva. Après que l'on eut mangé et bu à Silo, le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle priait l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit, non, mon Seigneur. Je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Amen. Un homme a écrit ceci, les possessions n'ont jamais fait le bonheur de personne, malgré ce que l'on peut croire. À l'inverse des sacrifices qui eux procurent quelque chose de particulier. Beaucoup de personnages de la Bible, d'ailleurs, ont vécu cette joie surnaturelle qui découle justement d'une vie de sacrifice. Amen. Vous savez, lorsqu'on se sacrifie pour l'Éternel, lorsqu'on choisit tout simplement de le mettre à la première place, avant ce qui va paraître pour des besoins naturels dont nous avons, ce sont nos besoins, dont il nous faut quelque part assouvir ce dont nous avons besoin, il nous faut trouver, eh bien, de dire non pas ce que je veux, Seigneur, quelqu'un l'a dit, mais ce que tu veux, toi, Seigneur. Et ça change tout, vous allez le voir. Le titre de mon message, c'est de la résignation à la révolution. Bon, les Français, nous, on est bons pour les révolutions, hein. Allez, Alors, nous avons là un témoignage extraordinaire. Dans le premier livre de Samuel, nous avons lu. Cette histoire nous montre comment nos vies peuvent être transformées, justement lorsqu'on décide de faire confiance à Dieu. Est-ce que vous avez confiance au Seigneur ? Facile, hein, quand tout va bien. Ah, alléluia ! J'aime l'Éternel, on vient de le chanter. Hein. J'aime l'Éternel car il entend ma voix. Car il entend ma voix. Hein. J'aime l'Éternel. Je fais de délices, de l'Éternel mes délices. Mon cœur prend plaisir, justement, à me présenter devant lui. Oui, hein, quand tout va bien. Facile de le dire. Hein. Seigneur, je te fais confiance. Vous savez, c'est important de pouvoir le vivre dans des moments particuliers. Anne vivait quelque chose de terrible. On ne peut pas imaginer. Je ne suis pas passé par là, je ne suis pas femme. Mais en tant qu'homme, on sait ce que c'est que lorsqu'on est privé de quelque chose, lorsqu'on aimerait faire plaisir à quelqu'un, lorsqu'on aimerait, quelque part, mettre à la première place, allez, cette personne-là et on ne peut pas. Lorsqu'on aimerait justement que le Seigneur soit connu de ceux que nous aimons. Est-ce que vous ne souffrez pas ? Vous priez pour eux, vous leur témoignez, vous faites tout ce que vous pouvez. Et là, il y a porte fermée. C'est pas terrible ? Ils sont dans la souffrance, ils sont dans la misère, leur vie est pitoyable. Et nous, on dit, mais c'est ça qu'il te faut. Ouais, c'est bon, pour toi. Vous connaissez cela, je pense. Hein ? Ouais. Mais vous savez, dans ces moments particuliers où on a tendance à baisser un petit peu de force, d'impact, eh bien, c'est bon de venir se réfugier dans les bras du Seigneur. On va le voir, Anne a fait cela. Anne est l'épouse d'Elkana, un juif de la ville de Rama. Elle était stérile, elle vivait très mal sa situation. À cause de toutes les conséquences de cette infirmité, elle traînait quelque part une misère sur elle. Eh oui. La stérilité, il faut le savoir, était considérée comme une punition divine. À cette époque-là, c'était terrible que d'être stérile. Et on peut croire qu'Anne vivait dans la culpabilité, dans la honte, justement à cause... Excusez-moi, c'est un faux raisonnement. Pourquoi ajouter de la souffrance encore à la souffrance ? Ajouter, vous savez, le doigt là. Il ne faut pas oublier qu'il y en a trois qui nous reviennent. Hein. On a tendance à oublier ces choses-là. Un doigt accusateur, un regard de mépris. Et oui, donc à cause de ces faux raisonnements, du regard des autres, souvent accusateurs, eh bien, elle le devait souffrir, mais terriblement. Elle a un mari qui l'aime, un mari qui lui démontre son amour, mais elle le sait très bien, justement, qu'elle ne pourra jamais lui donner le fruit dont elle aimerait lui donner. Elle ne verra jamais également ce fruit parce qu'elle est stérile. Et puis, ce qui est encore pire, c'est que son mari comble, lui, une autre femme. Quelque part, l'injustice est là. Mais l'injustice, c'est sa voisine chaque jour. Vous rendez compte ? Quelle situation ! En tout cas, cette autre femme, Pénina, qu'elle, normalement, devrait être heureuse, elle a des enfants. Elle devrait également démontrer un peu de compassion à Anne qui n'en a pas. Croyez pas ? Vous savez ce qu'elle fait ? Elle la persécute. Régulièrement. Volontairement, avec un certain plaisir. Eh oui, c'est terrible. Hein ? Alors, elle est certainement jalouse du peu que Anne possède. Vous savez ce qu'elle possède, Anne ? Elle possède l'amour et la faveur d'Elkana. Ah ah ! Voyez comme c'est beau. L'amour avec un grand A. Amen. Heureusement que nous sommes aimés. Alléluia. Je suis aimé du Seigneur. Gloire à Dieu. Mon frère, ma sœur, tu es aimé toi aussi du Seigneur. Est-ce que tu as conscience de qui tu es ? Est-ce que tu as conscience de qui est en toi ? Tu réalises un peu ? Alors cesse de te laisser abattre par l'adversaire. Est-ce qu'il a dit que la vie serait facile ? Qu'il n'y aurait aucun problème ? Que tout irait bien dans le meilleur des mondes ? Qu'est-ce qu'ils ont fait, Jésus ? Ils l'ont battu. Ils l'ont fait souffrir. Ils l'ont méprisé. Il les avait guéris. Ils l'ont rejeté. Il a livré sa vie en sacrifice. Excusez-moi, on l'a envoyé paître. C'est le monde dans lequel nous vivons. Je dis ça, mais j'ai été le premier à le faire. Je ne sais pas vous, hein. Mais moi, en tout cas, je l'ai fait. J'ai méprisé le Seigneur. J'ai méprisé les croyants. J'ai méprisé le pasteur, celui qui est devenu mon pasteur plus tard. J'ai méprisé tous ces croyants qui disaient bonjour à ma femme, qui disaient « Ah, sœur, comment ça va ?» Je disais « Oh, leur sœur !» Vous comprenez ? Mais c'est quand j'étais de l'autre côté. Et puis, je l'ai rencontré. Et je sais ce que c'est que d'être aimé du Seigneur. Alléluia ! Elle avait l'amour de son mari, elle avait la faveur de son mari. Nous avons la faveur et l'amour du Seigneur. Alors, je reviens à Anne. Anne, elle devait se sentir seule au monde. Eh oui. Personne pour la comprendre, personne pour l'aider. Comment s'en sortir lorsqu'on est seul ? Je dis bien, seul au monde, c'est ce qu'elle devait vivre. De plus, ses pèlerinages à Silo étaient des moments les plus difficiles de l'année. Vous rendez compte ? Et vous allez voir que ce n'est pas rien ce que je vais dire. Hein. Il y avait là les attaques de son ennemi. Ouais. Même si le mari donnait une double part à Anne, l'autre devait la regarder d'en haut. Vous savez ? Vous savez ce que ça signifie, Silo ? Silo, ça signifie le lieu du repos. Vous croyez que c'était reposant pour elle, Silo ? Dites-moi un peu. Je savais qu'en se réveillant le matin, le regard de l'autre allait venir. C'est pas vrai ? Eh oui. Vous savez que le monde est rempli de personnages comme Pénina ? Son nom veut dire corail. Une des particularités du corail, c'est qu'il possède des tentacules. Vous savez, elle sort. Et puis, elle libère un produit urticant qui permet justement de paralyser sa proie pour pouvoir l'absorber facilement. Eh oui. Alors, à l'image du corail, derrière la beauté éclatante de cette femme, se cache justement la capacité de paralyser les autres. Vous voyez le regard, quand j'en parlais du regard. C'est glaçant. Ça vous glace le dos. Ah oui. Paralyser les autres. Il y a une méchanceté qui est subtile, blessante. C'est là. T'as vu, hein ? Tu peux dire qu'il t'aime, Elkana. Mais t'as vu, moi ? Vous comprenez ? Vous êtes le laissé pour compte, hein ? C'est comme ça. Hein ? Voici comment un serviteur de Dieu parle de la solitude. Parce que, excusez-moi, elle est dans une grande solitude. Hein. Elle est seule. Ah oui. Il dit « La solitude est causée par la séparation de la présence de Dieu. » Vous voyez comme c'est important. Ce sentiment de vie, de solitude et de dépression est la façon dont Dieu se sert pour vous ramener vers lui. Des fois, il faut toucher le fond. Être seul, ne plus avoir quelque part de moyen de s'agripper à quoi que ce soit. Puis il rajoute « Lorsque vous devenez froid à l'égard de Dieu, que votre foi diminue, que vous cessez de nourrir votre âme avec sa sainte parole, que vous ne priez plus et que vous négligez les choses de l'esprit, il est certain que vous allez vous sentir seul. C'est inévitable. L'impasse. Plus rien. Plus personne. » Et il finit en disant la solitude. Écoutez bien. La solitude, c'est Dieu qui est au bout du fil, qui tente de vous appeler et vous invite à vite venir dans sa présence. Amen. Est-ce que quelqu'un sent cette solitude ce soir ? Peut-être pas encore, mais il y a là les débuts, les prémices. Viens vite te réfugier dans les bras du Seigneur. N'attends pas de te retrouver au fond du puits ou alors dans l'impasse, puis savoir que faire. Alors, on ne sait pas ce qui a poussé Anne à se lever un matin pour aller toute seule dans le sanctuaire. Peut-être le ras-le-bol. La situation est là, elle est lourde, elle est pénible, elle est pesante. ou encore, je pense, une souffrance devenue tellement insupportable, eh bien qu'elle se résigne justement à demander l'aide de Dieu. Alléluia. Vous savez, demander l'aide de Dieu, c'est la meilleure chose que l'on puisse faire. On a plutôt tendance à aller chercher l'aide à côté. Pas vrai ? Que chercher l'aide de Dieu. Pourtant, on se trompe. J'ai besoin du Seigneur, mais celui qui est à côté de moi, il a encore autant besoin du Seigneur, peut-être même plus que moi. C'est lui qui va pouvoir m'aider. Mais non, c'est le Seigneur qui va pouvoir m'aider. Amen. Alors, toujours est-il qu'elle s'est retrouvée dans la présence de Dieu pour justement y déverser son cœur librement, sincèrement. Vous savez, quand on est au bout du rouleau, quand il n'y a plus rien, plus personne, qu'on n'a plus rien pour pouvoir se sécuriser ou quoi que ce soit, qu'on vient dans la présence de Dieu, on le vient avec vérité, avec sincérité. Moi, je me souviens cette journée de ski de fond où le Seigneur m'avait appelé, il m'avait rappelé encore une fois, il m'avait redemandé tout simplement de me mettre à part pour lui et que j'ai pleuré toute ma misère. Heureusement qu'on était en ski de fond, c'était un stage de formation pour justement encadrer les camps de ski chrétien. Et heureusement que c'était le ski de fond où, dans le ski de fond, on s'éloigne de tout le monde. Et on peut rester à l'écart, derrière. Tout le monde nous attend, tant pis pour eux. Ils n'allaient pas aller si vite, mais au moins on est tout seul. Et je pleurais. Et je pleurais. J'avais un poids sur les épaules. L'appel de Dieu. Amen. Alors, c'est vrai que nous avons tous besoin de venir, de revenir à Dieu dans des moments où nous nous sentons seuls, seuls au monde, justement, hein, et que nous sommes eh bien, bloqués dans une situation difficile, difficile, même dans le sanctuaire. Parce que je reviens à elle. Même dans le sanctuaire, elle va être confrontée au jugement. Au manque de discernement du sacrificateur qui la traite comme une moins que rien. Et là, nous voyons qu'Anne, cette fois-ci, elle est vraiment résignée. Alors vous dites résignée, pourquoi ? Mais elle est vraiment résignée. Il ne s'agit pas de cette résignation fataliste, vous savez, qui démissionne, qui abandonne tout, que le petit Robert appelle la résignation par lâcheté. Le dictionnaire dit ceci. Mais cette résignation saine, qui littéralement veut dire abandonné au bénéfice ou en faveur de quelqu'un. Parce que c'est ce qu'elle va faire. Si tu me donnes un fils, il est pour toi. C'est pas extraordinaire ? Alors voici la bonne démarche qu'elle a faite. Elle s'est levée pour aller dans la présence de Dieu. Jésus a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 7, « Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Alléluia. C'est quand même une sacrée assurance, là, vous ne croyez pas ? Demandez ce que vous voudrez. Oui, mais comme on est en communion avec le Seigneur, on est en osmose avec lui, ce que je vais demander va être dans la pensée, dans la volonté de Dieu. Je suis assuré que ça va m'être accordé. Parce que je vis pour lui. C'est pour lui. C'est ce qu'elle a fait. Donne-moi, mais c'est pour toi, Seigneur. C'est pas extraordinaire ? Eh oui. Alors, demeurer en Christ, rester au sein de l'Église, c'est important. Nous devons sortir, pour sortir de cette solitude, eh bien, apprendre à rester, à demeurer, être ancré en lui. Et pour cela, le meilleur moyen, bien sûr, c'est de venir au rassemblement de l'Église, hein, de répondre comme la parole de Dieu aux saintes convocations. Eh oui, c'est celle que nous adresse le Seigneur. D'être présent aux réunions, vous savez, réunion de prière. Un jour, mon épouse a demandé, parce que moi, j'étais inconverti. Mon épouse était convertie 2 ans avant moi. Et je lui ai dit, en effet, voir, hein, vous lui demanderez un jour. Eh oui. Il lui dit, mais pasteur, moi, je veux en faire plus, mais qu'est-ce que je peux faire ? Et j'ai mon mari, il me fait une de ses têtes. Je ne vous dis pas, quand je rentre à la maison, d'habitude, il fait tout, là, il ne fait rien. Et c'est vrai que je ne faisais rien. Hein. Eh oui. Alors, il lui a dit, écoutez, ce qui est important pour vous, c'est le culte. Loupez aucun culte. Et puis, également, ce qui est important pour vous, c'est la réunion de prière. si vous pouvez venir à l'évangélisation, venez, mais écoutez, n'en faites pas un point d'honneur. Votre mari a besoin de vous voir aussi. Alors oui, c'est bien, c'est important. Hein. Et puis c'est aussi quelque part pour sortir de là ou du marasme, pour aller de l'avant, pour trouver quelque part un secours, une aide, eh bien c'est de côtoyer des chrétiens qui sont matures. Vous voyez, qui sont solides, vous les remarquez. Hein. Qui démontrent également de la compassion. Qui démontrent de l'amour, une attitude encourageante. Vous savez qu'ils ne sont pas méprisants, mais au contraire. Toujours une parole pour vous aider. Des fois, ils ne s'en rendent même pas compte, ils vous glissent une parole. C'est le tonus, c'est la vitamine dont vous avez besoin. Eh oui ! Combien de fois on a glissé une parole, on ne savait pas. Et puis plus tard, on apprend, on dit, ah ben tiens, oh, je ne savais pas que je... ben oui, c'est ce dont il avait besoin. Mais c'est ça, quand on est en communion avec le Seigneur et les uns avec les autres, on ne s'en rend même pas compte et on fait du bien. C'est important. Ce que je veux dire, c'est que c'est dans la communion fraternelle où nous pourrons également entendre la parole de Dieu, cette vitamine, cette force, amen, qui va justement imprégner nos cœurs et nous aider, nous secourir, nous donner du tonus, de la force. Alléluia. Anne a fait une prière sincère. Elle a, disais-je tout à l'heure, déversé son cœur devant Dieu. Et nous pouvons lire qu'elle ne parlait pas à haute voix. Élie a bien tenté de s'approcher, vous savez, d'approcher son oreille. Elle n'entendait rien. Ce qui est important, c'est que le Seigneur nous entend. Hein. Alléluia. Eh ouais. Alors peut-être la culpabilité, je ne sais pas, la peur des autres. Pourtant, il ne doit pas y avoir grand monde. Hein. La peur de demander un miracle à celui qui l'a soi-disant puni. Ou simplement le fait qu'elle n'avait pas les mots, et quelquefois, c'est vrai. Pff, Seigneur, des fois, on peut dire que ça, Seigneur. Oh, Seigneur, pourquoi ? On n'a pas les mots, oui. Alors, pouvons juste lire que, au verset 10, l'amertume dans l'âme, rendez compte, elle fait une prière à Dieu, elle a de l'amertume dans l'âme. Ben oui, mais tout était amer chez elle. Son voisinage l'avait poussée à devenir amère. Vous rendez compte ? Des fois, on apporte un jugement. On dit, quand même, tu n'as pas entendu ce qu'il a dit en sa prière. Mais c'est vrai, soyons sages. Parce qu'un jour, ça peut déborder chez nous et nous aussi avoir des paroles malheureuses. Je me fais bien comprendre ou... Vous savez que celui qui est debout, qui croit, il faut le dire, hein, qui croit être debout, prenne garde. La vérité, elle est là. Hein. Alors oui, l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel, elle versa des pleurs ou des larmes. Alors il peut arriver que nous ayons juste envie de pleurer dans les moments difficiles. Sans même plus savoir que demander, parce que je pense que ce n'était pas la première prière qu'elle adressait à Dieu. Qu'on en a tout dit. Plusieurs fois, qu'on a tourné les phrases d'un sens dans un autre, qu'on a eu une autre approche, et que, ben, il n'y a rien. Mais on pleure. On ne sait plus que demander, comment demander. C'est Paul qui nous enseigne ceci, Romains 8, verset 26. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et au verset 27. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Quelle bénédiction que d'avoir la présence de l'Esprit de Dieu en nous. Croyez pas ? Eh ouais. Alors elle a fait une promesse à l'Éternel. Certains peuvent dire, ouais, mais elle a fait du chantage là. Et moi je dis que non. Non pas par chantage, mais comme pour démontrer, je dirais, sa foi dans la puissance de Dieu, mais également son engagement total envers lui. Tu me donnes un fils, il sera consacré pour ton œuvre. C'est-à-dire, il sera pour toi. Elle n'en a qu'un, c'est là, parce qu'elle ne l'a pas encore. Et par avance, elle dit, ce sera pour toi, Seigneur. Je ne pense pas que ce soit les prières de Pénina. Hein. Je n'ai pas lancé pas jusqu'à présent, mais c'est en prêchant, en parlant, je dis, mais Pénina, au fait, elle n'a pas adressé une seule prière, pourtant on en avait plusieurs. Hein. Eh oui. Alors on peut dire qu'Anne, elle a pris un risque en s'engageant comme elle l'a fait. Voici un petit peu ce que nous dit le livre du Deutéronome. Et quelquefois, on ne prend pas de précautions, ou alors c'est à la légère qu'on parle et qu'on agit. Et il faut faire très attention. Deutéronome 23, verset 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir, car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Verset 22. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Des fois, il vaut mieux se taire que de s'engager par un serment. Je te jure, je serai là. Et puis, tu n'y es pas. Ma kiné me disait, on n'est pas trop en avance, je disais tout à l'heure. Elle me dit, non, vous... Et puis, en plus, la personne qui devait venir à 2 heures, elle n'était pas là. Elle n'est pas venue. Ah, mais ça me met en colère. Vous voyez? Alors, je continue verset 23. Alors, déjà, le verset 22, si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Donc, il vaut mieux se taire des fois. Hein. Par contre, il vaut mieux s'engager aussi. Hein. Mais... Si tu observeras, pardon, et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres, par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. Alléluia! Vous allez réfléchir avant de faire un vœu ou de prendre un engagement. Vous croyez pas? Mais j'y reviens. Pour aller de l'avant, il faut s'engager. Il faut y aller. Mais il faut le faire avec sérieux. Amen. C'est pas un pied en avant, deux pieds en arrière. Seigneur, j'avance. Et comme il dit à Josué, toute parcelle de terrain que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Et c'est comme ça qu'on s'empare du terrain, qu'on prend des victoires, qu'on va de l'avant. Amen. Alors Anne, en quelque sorte, fait comme un grand navigateur du nom de Hernán Cortés. Lors de la conquête du Mexique. Un jour, c'est en février 1519, il va détruire tous les navires. Il y en a un qui l'a renvoyé en Espagne, et après, eh bien, il a détruit tous les navires, tout cela pour éviter que l'équipage ne recule devant l'ennemi. Vous vous rendez compte? Il n'y a plus d'échappatoire. Hein. Là où on y va, sinon c'est fini, on prend le bouillon. Hein. C'est Bernal Diaz de Castillo, son compagnon, qui témoigne. Il dit, nous ne pouvions attendre d'aide ou de secours que de Dieu. Oh, comme c'est vrai. Voyez ? Là, je ne peux plus compter sur le copain, la copine, sur le voisin, la voisine, sur le collègue de travail, sur le frère, même si les Italiens disent le fratello. Et oui, je ne peux plus compter. Il dit, nous n'avions désormais plus de vaisseaux pour faire marche arrière. C'est-à-dire la retraite nous était interdite. Il fallait triompher. Il fallait gagner. Eh oui. Alors Anne sait que si elle ne tient pas sa parole, je reviens au Deutéronome, elle risque de commettre un grand péché aux yeux de Dieu. Mais elle sait aussi que Dieu peut lui donner le fils dont elle a toujours rêvé. Et que par la foi, tout devient possible à celui qui croit. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire ce que tu n'as pu réaliser jusqu'à ce jour, même si c'était un miracle, parce que Dieu, c'est le Dieu du miracle. Invoque-moi et je te répondrai. C'est pas extraordinaire? Ben oui. Alors Anne vient de faire exactement tout ce qu'il faut pour attirer la bénédiction et la faveur de Dieu. Elle est allée dans sa présence. Elle lui a confié sa situation difficile et elle a pris une forme de résolution. Seigneur, voilà, c'est pour toi. Une ferme résolution. Ça, c'est à toi. Et je n'en démords pas, c'est comme ça. Alors, par la foi, elle a donné à Dieu quelque chose qu'elle ne possédait pas encore. Et c'est en voyant justement ce cœur sincère, le cœur sincère d'Anne, sa foi également, que Dieu a pu répondre à sa prière. Dans 1 Samuel 2, verset 30, pour voir comment Dieu considère ce genre d'acte, Regardez bien, je lis en partie. La dernière partie, je lis. « J'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Quel dommage. Vous ne croyez pas? Ce que je retiens, c'est ça. « J'honorerai celui qui m'honore. » Veux-tu honorer le Seigneur? Sois un homme de parole. Amen. Sois prudent avant de prononcer une parole. Alléluia. Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Et sa volonté, c'est que vous veniez dans sa présence lorsque tout va mal, mais également lorsque tout va bien, au lieu de s'isoler. Je me souviens de cette jeune fille, c'était pas ici, hein, c'était ailleurs, dans une église où j'étais auparavant. Je vois qu'elle n'est plus là. Je l'appelle. Et puis, je comprends qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce qu'elle était très fuyante dans ses paroles, ses propos. Je lui dis, écoute, je viens te voir. On ne perd pas de temps. Je viens te voir. Elle s'était mise à l'isolement. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas dans sa vie. Rien n'allait dans le bon sens, soit au travail, dans la vie familiale. Il n'y avait plus rien qui allait. Et je lui dis, et tu crois qu'en restant dans l'isolement, en t'isolant du corps de Christ, en te coupant de la seule source d'énergie qui va t'aider, te secourir à remonter la pente, que tu vas y arriver. Je lui dis, tu es en train de t'exposer dangereusement aux assauts de l'adversaire. Il cherche à éloigner sa brebis, tel un loup, qui veut ensuite fondre sur sa proie et la dévorer en un instant. Alors je dis, non, ce n'est pas comme ça que tu vas y arriver. Je prie pour toi, mais toi, prends la résolution de te lever, de ne pas rester comme ça. Déjà, tu seras à la réunion de jeunesse samedi. Boum. Ben oui. Et puis c'est parti. Elle a retrouvé du tonus, elle a retrouvé tout simplement la joie et le bonheur de venir à l'église. Elle a cessé de regarder aux autres pour qui ça marchait, parce que c'est ça notre problème. On se compare. On regarde. Lui, ça marche toujours. Ouais, tu ne sais pas ce qu'il vit aussi. Nous, pasteurs, on sait des choses qu'on ne peut pas le dire. Des choses qu'on ne dit pas. Mais si tu savais ce que vit celle dont tu dis, pour elle, tout va bien, mais si tu savais, tu ne dirais pas pareil. Donc, vous savez que c'était important. Alors, en se résignant ainsi, en donnant à Dieu son fils, ce qu'elle avait de plus précieux, non seulement Anne a vécu une révolution personnelle, c'est le titre du message, vous l'avez compris, hein. 1 Samuel 1,18 nous dit « Cette femme s'en alla. Elle mangea, son visage ne fut plus le même. Mais elle a également suscité la naissance d'un enfant, Samuel, qui est devenu grand. Quand il est devenu grand, il est devenu l'un des prophètes les plus influents de la Bible. Elle a provoqué comme une révolution dans l'histoire du peuple d'Israël. » Vous ne savez pas ce que Dieu peut faire de vous? Eh oui! Alors ma prière, s'il en est une, est que cet exemple nous inspire, nous éclaire. Et puis si quelqu'un est dans une situation difficile, qu'il juge sans issue, approche-toi de Dieu. Alléluia. Approche-toi de lui. Parce que lui, il a un plan magnifique. Croyez que tous les hommes de Dieu qui ont une vie dont on dit... C'est le rêve, si je pouvais vivre des choses semblables. Vous savez comment on appelle Jérémie? Je l'ai dit la dernière fois, hein, quand je prêchais sur Jérémie. Le prophète qui pleure. Pourtant, il a un magnifique ministère, Jérémie. Tu leur parleras, ils ne t'écouteront pas. Tu les avertiras, ils te feront la guerre. Formidable! Mais c'était le ministère de Jérémie. Écoutez, Jérémie, moi, je me plais à le lire, je le relis en ce moment. Je suis en train de le relire et je me fais du bien. Je dis, punaise, il a balancé de ces trucs. Non, je serais pris, excuse-moi, des waouh. Écoutez, Dieu était avec lui, c'était son ministère, et Dieu l'avait qualifié pour parler au peuple. Quand c'est la déconfiture partout, que lui dit, ne fuyez pas, restez là. Mais on n'a plus rien, il n'y a pas de ressources, tout est mort. Restez là, ça va revenir. Regardez, moi j'achète un terrain pour mes enfants, parce qu'ils vont revenir aussi. Comment ça? Mais il n'y a plus rien, c'est plus à nous. L'ennemi est là, il a tout pris pour lui. Mais écoutez, allez, revenez, partez pas. Mais si, les prophètes, les autres prophètes, ils nous disent qu'il faut partir. Et quand il leur dit, allez, laissez-vous prendre. Nebuchadnezzar, laissez-vous arrêter, laissez-vous... Eh oui! Quand tout le monde vous dit le contraire. Il est à contre-courant, le gars. Mais écoutez, quel ministère? Quel ministère? Seul contre tous. Là aussi, c'est la solitude. Pas pour rien qu'il va dans le désert et qu'il demande la mort. Mais enfin, le Seigneur lui a montré sa gloire. Vous savez, c'est pas mal. Même s'il était caché, là. S'il était de dos. Mais écoutez, c'est une expérience particulière. Alors oui, que cette prière, justement, vous amène à vous approcher de Dieu. Parce que vous allez certainement vivre quelque chose de bon, de beau. Ce plan merveilleux, il veut l'accomplir dans votre vie. Il faut le faire avec résolution. Amen. Pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas, allez, je te donne, mais peut-être je le reprends d'après. Non, non. Engagez-vous totalement. Amen. Pas de troc avec Dieu. Moi, ce que je prends plaisir, j'image comme ça. Des fois, je me fais des images, des films. Je dis ça, je le donne à Jésus. La Bible me dit qu'il va me le rendre. Mais il ne me le rend pas comme c'était. Il l'enrichit, il le bonifie, et ensuite il me le rend. Qui est gagnant? Déjà le Seigneur, parce qu'il a vu mon cœur qui était prêt à donner. Et puis, comme dit Job, l'Éternel a donné. Que le nom de l'Éternel soit béni. L'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Croyez pas? Eh oui. C'est simplement des expériences personnelles. Alors, je ne sais pas si tu étais résigné en venant dans ce lieu, en disant, pouh. Il y en a qui l'ont fait. Un jour, une sœur témoigna à son mari. Son mari, il en avait marre parce qu'il l'a entendu, mais alors quantité de fois avec sa belle-mère qui s'y mettait aussi. Viens aux réunions, viens aux réunions. Et puis, un jour, il a dit, bon, allez, je viens, c'est cette fois-ci. Mais après, vous ne me cassez plus les pieds. Et le Seigneur l'attendait là. Il a été, alors excusez-moi, les flèches qui ont été décochées par le message, la parole de Dieu, par les dons spirituels, par les prières, l'ont atteint en plein cœur. Il est mort à lui-même. Et il est ressuscité en Christ. Amen. Alléluia. C'est pour chacun. On se met en prière, vous voulez bien, hein? Peut-être tu as des choses à demander à Dieu. N'hésite pas, c'est le temps de Dieu, c'est le temps de la prière, c'est le temps où justement tu peux, eh bien, prier. Nous allons dire Amen. C'est-à-dire que nous voulons simplement qu'il en soit comme Dieu veut pour ta prière. Amen. C'est le temps du Seigneur, c'est le temps où nous sommes réunis devant toi. Seigneur, merci pour ces moments, merci pour ta parole, merci pour l'action de ton esprit, Seigneur, parce que tu es souverain. Je prie de passer dans les rangs, Seigneur, mais tu as commencé à le faire. Seigneur, je te demande d'accorder ta grâce. Seigneur, Anne a vécu des choses terribles et peut-être quelqu'un au milieu de nous vit des choses semblables et ne sait plus que faire. Eh bien, Seigneur, ce soir, tu l'as tout simplement invité à venir dans ta présence. Seigneur, il devait entendre ces choses-là, il devait entendre ces choses-là. Et Seigneur, tu es en train de te manifester maintenant. Seigneur, tu vois la prière, Seigneur, qui n'est pas exprimée oralement, mais qui est là dans le cœur, ce soupir, ce désarroi, cette souffrance intérieure. Et tu dis, je veux te bénir ce soir. Alléluia. Le Seigneur est là pour te visiter. N'hésite pas à t'ouvrir. Tu es venu. Eh bien, approche-toi avec vérité du trône de la grâce.